Justine Massika Biamba, femme congolaise, femme debout.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme, nous dit un proverbe africain. Peut-être, mais lorsqu'on vit au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, il semblerait que certains proverbes aient perdu leur chemin. Il y a quelques semaines, pour un sol majeur, je suis allée enregistrer In Extremis avant son retour sur Goma, Justine Massika Biamba, un petit bout de bonne femme, petit bout de bois de Dieu, aurait peut-être dit Samben Ousmane. Cette fille du Nord Kivu qui a l'allure d'une sœur, le cœur d'une mère et la force du monde puisée dans la foi, n'est qu'un maillon indispensable d'une chaîne humaine héroïque. Cofondatrice de l'association La Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles, elle sillonne inlassablement le monde pour interpeller les instances internationales et sensibiliser la France, par exemple, à ce qui se joue autour du champ de bataille congolais qui utilise le viol comme une arme de guerre depuis 30 ans d'interminables conflits. Interview sur le pouce, je vous aurais prévenu, autour de cet ouvrage qu'elle publie aux éditions de l'Aube, « Femmes debout face à la guerre ». On peut y aller ?
Ça tourne.
Bonjour Justine Massika Biamba.
Bonjour Yasmine.
Merci de nous accorder cet entretien ici à Paris, dans un Airbnb, près de la mairie du 18e arrondissement, et quelques jours ou quelques heures avant de reprendre l'avion, peut-être pour Goma. Vous êtes née en 65 à Butembo, mais évidemment Goma est centrale dans votre vie. J'avais envie qu'on s'arrête une minute en sol majeur. Goma est pris entre deux géants.
Le volcan Nyiragongo, quand il est en éruption, c'est tout Goma, ou la moitié de Goma qui est brûlée, et les lacs Kivu où il y a du gaz méthane. Donc nous sommes entre deux géants.
Alors il y a une mythologie autour du lac Kivu que j'aimerais bien que vous nous racontiez.
Oui, là on dit que lorsque les colons sont arrivés, et ils posaient la question pour savoir les noms du lac. Mais les personnes, leurs interlocuteurs, n'ont pas bien compris. Et se sont dit, non, ce lac-là, c'est comme une femme très fertile et on l'appelle une Kivu. Donc, c'est ce qu'on raconte.
C'est le symbole de l'orgasme féminin qui aurait été créé par la cyprine. Cette sécrétion, moi, je donne carrément l'information, parce que ça change tout quoi, dans l'histoire de cette mythologie et la perception qu'on peut en avoir. Donc la sécrétion qui exprime le désir féminin de la reine des mille collines. Alors, qui aurait fait l'amour avec qui?
Là, je ne connais pas très bien l'histoire, puisque lorsqu'on parle de mille collines, c'est de l'autre côté de la RDC, c'est le Rwanda.
Et voilà.
Il faut savoir que la ville de Goma et la ville de Gisenyi, il n'y a pas de frontières naturelles. Donc, tu peux avoir une maison avec la salle à manger au Congo et les chambres à coucher au Rwanda.
Alors, je vais vous faire écouter quelque chose que vous m'avez envoyé.
J.
Comme.
Je me souviens.
Kilisasa, ça veut dire quoi, Justine?
Bon, normalement, lorsqu'on était enfant, cette chanson, on la chantait quand on sautait à la corde. Kilisasa ne veut rien dire.
Absolument rien dire.
Non, c'était seulement pour sauter à la
Freuden.
Corde. Freuden. Oui. Et là, curieusement, nous, comme Congolaises, on l'a beaucoup chanté. Mais c'est une Burundaise qui la chante. Oui.
L'histoire des frontières est au cœur même des comptines.
Hein. Oui, oui.
Donc cette chanson en Swahili qu'on écoute en sol majeur avec vous, est-ce qu'elle va bien avec votre enfance, celle que vous avez vécue à Butembo ou à Goma?
À Goma. Je suis seulement née à Butembo puisque mon grand-père était infirmier à Butembo. Et donc après ma naissance, quelques jours après, nous sommes rentrés à Goma.
Quelle est la première image que vous avez quand vous pensez à votre enfance?
Bon, moi, je dirais que je suis parmi les personnes qui ont de la chance en République démocratique du Congo. D'abord, je suis née d'une famille qui connaît Dieu, ça je peux dire, qui craint Dieu, puisque mes ancêtres, du côté de mon père, étaient des évangélistes, c'était des missionnaires. Et du côté de ma maman, ils étaient plus dans le médical. Donc, on avait tout. Et je peux dire que j'étais parmi les rares enfants qui étaient conduits à l'école par un véhicule. Puisque mon papa était un commerçant, il allait à Nairobi, il avait une boutique. Donc, on avait un véhicule pour nous amener à l'école. Et à notre époque, ce n'était pas donné à tout le monde.
Oui, mais vous, la petite fille, vous souhaitiez ressembler à tous les copains qui n'avaient pas forcément le chauffeur, la voiture et les chaussures.
Surtout ça, je me sentais gênée quand j'étais à l'école avec mes collègues. Moi, je viens avec un cartable sous mon dos, j'ai des chaussures, j'ai tout. Mais les autres ont des sacs en plastique pour amener et ils sont pieds nus. Et des fois, j'enlevais mes chaussures que je mettais dans mon cartable pour ressembler aux autres. Mais une fois arrivée à la maison, j'étais punie par ma maman puisque je marchais pieds nus.
Oui, avec quelque chose aussi sans doute de rare pour l'époque, une espèce de parité dans l'éducation entre filles et garçons.
Oui, là je dirais que j'étais la seule fille parmi 6 garçons et il n'y avait pas de différence entre moi puisque dans d'autres familles, on privilégiait les garçons pour les études et les filles étaient laissées pour compte. Mais dans notre famille, je n'ai pas connu ça. Et même aujourd'hui, on me considère toujours comme l'aînée.
Vous avez une tête de chef de famille, Justine.
Merci.
Justine Masika Bihamba avec nous sur RFI. Je sais que vous parlez plein de langues.
Pas du tout.
Pas du tout. Vous parlez combien de langues africaines?
Africaine. Je parle ma langue maternelle.
Swahili?
Même pas. Le Swahili n'est pas ma langue maternelle.
Alors, c'est quoi?
Il y a le Kinande, qui est ma langue maternelle, le Swahili. Et je peux comprendre un peu le Kinyarwanda, le fait que j'ai travaillé comme assistante sociale avec les réfugiés. Et je crois que c'est tout.
C'est bien ce que je dis, donc vous parlez quand même plusieurs langues.
Oui, c'est plus que 3 quand même.
Et on a fait cette interview en français. Quel lien vous avez avec cette langue?
Bon, je dirais que c'est la langue de mon éducation, puisque c'est la langue qu'on étudie à l'école et c'est la langue de mon travail. Puisque là, je dois soumettre les rapports en français. Mais je travaille avec les femmes en swahili. Puisque ce sont des femmes paysannes et n'ont pas étudié. Bon, elles peuvent avoir étudié, mais elles se sentent à l'aise en swahili.
Donc, lorsqu'arrive en 1994 le génocide des Tutsis au Rwanda, le voisin, le pays voisin, vous avez presque 30 ans et vous voyez déferler chez vous des dizaines de milliers de génocidaires dans le pays avec leurs armes et, dites-vous, la bénédiction internationale. Laurent-Désiré Kabila, qui est à ce moment-là juste un chef révolutionnaire parmi tant d'autres, va rentrer dans le jeu et créer avec d'autres dissidents l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo Zaïre, la FDL. Alors, on ne va pas rentrer pour un seul majeur dans le jeu de ces alliances et de tous ces groupuscules, parce que c'est une situation extrêmement complexe. Mais tout de même, juste pour évoquer ce climat de début de crise, dites-nous, Justine, qui sont à l'époque les, je ne sais pas comment on le prononce, les Interahamwes?
Interahamwe. C'est un mot Kinyarwanda.
Et les Kadogo.
Oui, les Interahamwe, ce sont des miliciens rwandais qui ont traversé la frontière avec leurs armes. Et les Kadogo dans l'AFDL, ce sont des jeunes enfants, les garçons qu'on a enrôlés dans l'armée pour qu'ils puissent prendre les armes pour combattre l'armée de Mobutu.
Les enfants soldats.
C'est ce qu'on appelle les Kadogo.
Alors vous, Justine, c'est en tant que travailleuse sociale que vous allez vous impliquer pour accompagner très tôt les victimes de la guerre et des massacres.
Et les réfugiés et les accompagner dans différents camps de déplacés. Puisque à Goma, il y avait les camps de Mugunga et un peu au nord, il y avait les camps de Kaindo. Donc, il fallait qu'il y ait des personnes qui travaillent avec des organisations internationales pour aider ces réfugiés qui étaient sur notre sol.
Qu'est-ce qui fait que cet élan humanitaire se réveille en vous?
Bon, je crois que c'est plus hein, la souffrance que je vis tout autour. Puisque là, lorsqu'ils sont arrivés, comme à Goma, il y a toujours un problème d'accès à l'eau potable, malgré que nous soyons tout au bord du lac. Là, il y a des personnes qui mouraient chaque jour. Et des milliers de personnes. Puisqu'il y avait une épidémie de choléra. Moi, j'ai travaillé à ce moment. Donc, tu piétinais ou tu sautais des cadavres des gens. Ou soit tu voyais des enfants qui sont en train de téter des cadavres de leur maman. C'était horrible. Et je me suis dit, il faut voir comment on peut aider. Il a fallu l'implication de toute la population. Et là, je ne dirais pas que c'était seulement l'histoire des ONG, mais c'était l'histoire de toute la population de Goma.
Il faut lire absolument votre livre « Femmes debout face à la guerre » qui paraît aux éditions de l'Aube. Vous racontez bien l'évolution de toute la situation. J'aimerais bien qu'on revienne une seconde sur la marche mondiale des femmes qui aura eu lieu en 2010 à Bukavu.
Oui, puisqu'au début j'ai dit que nous avions une vie meilleure, une vie tranquille. Mais avec l'arrivée des réfugiés, la situation s'est compliquée. On a eu une action mondiale des femmes pour venir en solidarité aux femmes congolaises, et c'était à l'est. Donc, on a choisi la ville de Bukavu. Et toutes les femmes du monde étaient réunies à Bukavu pour une action de solidarité.
Lors de cette marche, ce qui m'a frappée en vous lisant, c'est de lire qu'il y a eu un petit monument qui a été érigé en hommage à une vingtaine de personnes qui ont été détruites et torturées de façon inimaginable.
Elles étaient enterrées vivantes.
Avec un raffinement, si j'ose dire, si on parle des tortures. Est-ce que à ce moment-là, vous commencez, Justine, à vous interroger sur le pourquoi de ces violences?
Bon, je dirais que là, à ce moment, on travaillait surtout sur les conséquences. Donc, les femmes qui ont été violées avaient besoin d'une prise en charge médicale, d'un accompagnement psychosocial.
C'était l'urgence.
Oui, c'était ça l'urgence. Mais par après, nous nous sommes dit, il faut vraiment qu'on essaie de s'attaquer aux causes. Et on a identifié la première cause comme l'exploitation illégale des ressources naturelles. La deuxième cause, l'impunité qui est généralisée. La troisième cause, l'armée et la police qui ne sont pas bien formés pour protéger les populations et leurs biens. Et la quatrième cause, les coutumes qui considèrent la femme comme inférieure à l'homme.
On va revenir sur tous ces points parce que ça mérite d'être développé. Un jour, Justine, je crois que c'est à ce moment-là que vous suivez une formation du Fonds mondial pour les droits humains. Vous êtes recherchée, et vous êtes recherchée notamment par les rebelles.
Bon, ce qui est vrai est que j'ai eu plusieurs menaces. Mais je dirais, la première fois que j'avais été menacée, on travaillait avec les femmes pour participer à la procédure à la Cour pénale internationale. Et là, je crois qu'ils ont su, comme je suis allée sur le terrain et j'étais avec les femmes, et ils sont venus croyant qu'ils vont trouver peut-être des fiches, peut-être quelque chose sur moi, ou au bureau, mais ils n'ont rien trouvé.
Alors, ils, c'est qui?
Les rebelles. Si je peux les appeler ainsi. Mais moi, je préfère les appeler les personnes armées.
Pourquoi vous faites ce distinguo?
Bon, puisque là, il y a plusieurs rebelles, il y a plusieurs groupes armés. Donc, je préfère parler des groupes armés que de parler des rebelles. Puisque là, si je parle des groupes armés, je saurais identifier c'est tel ou tel groupe armé.
Est-ce que vous pouvez juste rapidement nous dire un tout petit peu l'éventail, si j'ose dire, de ces groupes armés?
Il y a des groupes armés congolais. Ils se disent qu'ils sont là pour protéger les leurs. Et il y a des groupes armés étrangers. Et quand je parle d'étrangers, là, je vais parler des FDLR, les Interahamwe. Là, ce sont des Rwandais Hutus. Il y a maintenant les M23. Là, il y a soutenu par les Rwandais et ce sont des Rwandais Tutsi. Et il y a aussi des Burundais du côté du Sud Kivu. Et il y a eu même un moment où on avait du côté de la province orientale des Sud-Soudanais. Et côté Beni, là, il y a des Ougandais qu'on appelle des ADF.
Alors, votre combat, Justine Massikabiyamba, il va aller grandissant avec la généralisation des massacres. J'aimerais que vous nous racontiez notamment votre implication auprès de l'association Uwaki.
Uwaki, c'est en swahili, Umoja wa Wanawake Wakulima wa Kivu. Et là, pour le Nord Kivu, c'est Kivu ya Kaskazini, puisque là, c'était encore l'ancien Kivu. Union des femmes paysannes du Nord Kivu. Uwaki, c'était une organisation qui travaillait pour la promotion des droits de la femme paysanne. Moi, je ne savais rien. Je suis née en ville, je ne connaissais rien vraiment de rural. Mais en travaillant avec les femmes rurales, j'ai compris qu'elles avaient des potentialités, mais qu'elles ignoraient. Et qu'il fallait vraiment qu'on les accompagne pour qu'elles puissent découvrir et surtout reconnaître leurs droits. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour la promotion des droits de la femme.
Quand vous dites qu'elles ne connaissent pas leurs droits, ça va assez loin. Vous écrivez « Certaines ignorent qu'elles pourraient manger comme leur mari. Traditionnellement, la meilleure part de viande revient à l'homme.
Oui.
La femme et les enfants se contentant des abats.
Oui, oui.
D'autres révèlent qu'elles dorment à même le sol, sur une paillasse en feuilles de bananier, au pied du lit occupé par leur compagnon.
Mm-hmm.
La plupart de ces femmes n'ont pas de documents officiels de mariage.
Surtout ça.
Et les seules qui ont quelques bases juridiques sont des chrétiennes qui veulent être en ordre avec l'Église.
Oui, oui.
Donc, on va dire que là, vous vous attaquez quand même au nerf de la guerre, c'est l'analphabétisme, Justine.
C'est là où je parlais des coutumes et traditions. Puisque les coutumes veulent laisser la femme toujours au second rang, et surtout l'influence de l'Église. Il y a des versets qui donnent des pouvoirs aux femmes, mais jamais dans les églises, on ne dira pas de ces versets-là.
Vous pensez à quel verset, par exemple?
Je veux parler d'Esther, puisque Esther, malgré qu'elle était reine, elle s'est levée pour aider tout Israël. Et là, ça a marché. Mais souvent, on ne parle pas de ça, de la force d'Esther, même Déborah. Mais lorsqu'on parle de la femme doit être soumise, elle ne doit pas prendre la parole devant les hommes. Là, vous allez voir, ils brandissent ça. Et pourtant, dans la Bible, il y a là où on reconnaît, là où on vante les mérites de la femme. Mais souvent, on prêche toujours là où elle doit rester soumise. Et c'est pour cela que nous, on s'est dit, il fallait que nous puissions travailler et avec les églises, et avec toute la communauté. Mais il y a aussi cette situation de guerre qui nous a beaucoup aidés. Puisque pendant ces 30 ans de guerre, c'est la femme qui a porté le poids de toute sa famille. C'est elle qui était sur les camions, malgré qu'il y a le problème d'insécurité. C'est elle qui a fait survivre, c'est elle qui a fait scolariser ses enfants. Donc là, quand même, il y a les hommes qui ont compris. Oui, les femmes nous aident.
Et là, vous allez, en étant immergée, j'imagine que la confiance s'installe, parce que c'est aussi une question de confiance, collecter des témoignages, beaucoup de témoignages, et aussi auprès de femmes de militaires.
Oui. Parce que c'était les femmes qui allaient au champ et nous disaient, lorsqu'on va au champ, il y a des personnes qui abusent de nous. Mais non seulement c'était les femmes paysannes, mais aussi il y avait des femmes militaires qui étaient juste à côté de nous, à Goma, qui étaient abusées aussi sexuellement à cause de la promiscuité. Il n'y avait pas assez de maisons dans les casernes. Les femmes vivaient dans des bus.
Les carcasses de bus.
Oui, oui, dans les carcasses de bus. Donc là, à cause de la promiscuité, là aussi, il y avait un problème sérieux.
Alors,
mais à une seule organisation, oui. C'était difficile. C'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble, 35 organisations, et on a commencé la synergie.
Voilà la synergie. Mais qu'est-ce qui vous permet véritablement de la créer, je veux dire, avec sérieux, cette synergie?
Nous sommes d'abord des Congolaises, les sœurs de ceux qui sont abusés sexuellement, et nous connaissons vraiment les contextes culturels, puisque jusque-là, les viols restent une honte. Et là, il ne faut pas dire « on l'a violé ». Non, puisque les femmes elles-mêmes ne dénoncent pas. Là, c'était du sérieux, puisqu'il y avait d'abord la confidentialité qui était le mot-clé. Il fallait qu'il y ait vraiment confiance qui est établie entre nous qui accompagnons les femmes et les femmes pour que nous puissions avoir accès à leurs histoires et surtout voir comment les aider.
Alors, il y a 4 domaines d'expertise au sein de Synergie, de la Synergie.
Il y a la prise en charge médicale, puisque les femmes arrivent vraiment avec des lésions physiques graves. Il y a de ceux-là qui ont des problèmes de fistules, c'est les incontinences urinaires.
Mais il y a des tortures qui sont inimaginables. C'est-à-dire, il y a une femme, par exemple, dont la bouche a été détruite pour qu'elle ne puisse pas témoigner du viol qu'elle a subi.
Oui. Parmi les cas qu'on a accompagnés, il y avait une femme dans les Routchourou. On l'avait agressée la nuit et on a volé des effets dans sa maison. On avait tué son mari et son fils. Et quand elle passait comme ça, donc c'était passé il y a quelques mois, elle voit la radio qu'on avait volée dans sa maison. Il va vers les chefs pour dénoncer. Il y a le chef qui a envoyé les gens pour arrêter le monsieur qui a volé sa radio. Donc, elle avait conclu, comme c'est lui qui a la radio, c'est lui qui a tué mon mari, c'est lui qui a tué mon fils. Et quand il était emprisonné, il a envoyé son groupe, puisqu'il n'était pas seul.
Oui.
Et ils sont allés pour couper les lèvres de la femme, pour qu'elle ne puisse plus parler, puisqu'elle les a accusés.
Lors d'une première rencontre à la Synergie, l'agente aborde évidemment la cause de ce rendez-vous. Une personne qui a vécu un tel événement porte en elle plusieurs charges, comme la peur de mourir, la honte, la fatigue due à des troubles de sommeil, la colère, la haine, l'esprit de vengeance, des hallucinations visuelles ou auditives, des cauchemars, le manque d'appétit, la perte de mémoire, des plaies, une grossesse non désirée, des maux de tête, la perte de repères quant à sa position au sein de la famille. Il est donc fondamental d'aborder le problème d'une manière progressive. Quand la survivante termine un propos, l'écoutante s'attache à le reformuler. Nous utilisons beaucoup de métaphores. La plus connue dans nos rangs est celle de la rivière après une pluie abondante. L'eau charrie de la boue, des troncs d'arbres, des feuilles, des saletés, mais continue de couler et dépose petit à petit ses charges sur les rives dans un méandre. Page 97 de « Femme debout face à la guerre ».
Chi.
J'ai. Comme genre humain.
Mais ce combat et ce bras de fer, on va dire, n'est pas simple, car le conflit armé n'explique pas tout quand on parle des viols sur les femmes. Vous l'avez dit au début, les femmes au Congo ne sont pas considérées comme des citoyennes pleine et entière, on va dire. Et puis, il y a un souci aussi du côté de l'armée congolaise.
Oui, ce qui est vrai est que la situation est complexe. Les militaires, d'abord, ils n'ont pas eu une formation adéquate, mais une fois aussi militaires, ils ne reçoivent pas leurs soldes. Là, il y a des militaires qui sont en front, ils ne sont pas payés, ils n'ont même pas la ration. Et là, c'est difficile que tu puisses combattre l'ennemi quand tu as le ventre qui est vide.
Oui, et puis un homme seul pendant des mois, c'est ce que les gradés de l'armée vous disent.
Bon, c'est ce qu'ils disent, mais moi, je ne comprends pas leur explication. Parce que là, je crois que malgré que tu sois seul pendant des années, ça ne te donne pas le droit d'aller et violer les femmes. Ça, je n'excuse pas l'erreur. Non, là, je n'accepte pas.
Oui, mais ça donne justement le ton. Déjà, l'armée, elle dit quelque chose de la posture par rapport à cette question du viol. Et d'ailleurs, vous, Justine Massikabiamba, vous dites que le viol est plus qu'une arme de guerre, c'est une stratégie venue d'en haut.
C'est une stratégie de destruction. On dit que la femme est sacrée chez nous et l'homme voit sa force, sa vigueur, au travers de son épouse. Et une fois que son épouse a été déshonorée, ils ne peuvent plus combattre. C'est une stratégie pour anéantir l'ennemi, mais aussi c'est une stratégie pour détruire. Puisque lorsqu'une femme est violée devant son mari, devant ses enfants, Là, c'est pour la détruire.
Mais ça, c'est des responsables en col blanc, si j'ose dire, qui vous l'ont dit tranquillement, ça.
Ce sont les membres des groupes armés qui nous ont dit ça, puisqu'on avait eu la chance de pouvoir discuter avec eux.
Comment on peut faire, alors, là, dans une situation pareille?
Dans une situation pareille, je crois que la punition, c'est la seule arme qu'on peut utiliser. Si les gens qui commettent les viols sont sérieusement punis, les autres n'oseront plus recommencer. Malheureusement, en RDC, parmi les défis que nous rencontrons, l'impunité et la corruption.
Dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays, perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement.
Que dit Félix Tshisekedi?
Tshisekedi, on ne sait pas ce qu'il dit jusque-là. Il vote des lois, mais les lois ne sont pas mises en pratique. Et il fait des promesses, mais malheureusement, ces promesses ne sont pas exécutées.
Est-ce que vous diriez, comme Denis Mukwege, donc ce chirurgien de Bukavu et prix Nobel de la paix en 2018, qu'il y a une haine généralisée dans le pays vis-à-vis des femmes, Justine?
Dire haine généralisée, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une haine ou c'est seulement pour détruire? Puisque ce n'est pas qu'ils n'aiment pas la femme, mais seulement ils veulent détruire, puisque c'est une arme qui est utilisée contre son ennemi, c'est tout.
On sent une force et une très grande lassitude en même temps, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, Justine. Je le vois bien dans vos yeux. En tout cas, pour vous, une paix durable dans le pays serait conditionnée à un dialogue avec tous les groupes armés. C'est ça que vous préconisez?
Bon, moi, je crois qu'une paix durable, ça sera l'implication de tout le monde. Qu'on voit la société civile, qu'on voit les femmes, qu'on voit les groupes armés, tout le monde, puisqu'il faut que tout le monde amène sa pierre pour la construction de la paix.
Alors, vous dénoncez à juste titre le silence de la communauté internationale par rapport à cette situation de votre pays, et vous êtes en France depuis quelques semaines, et je crois savoir que vous avez rencontré des personnes bien intentionnées, notamment Chrysoula Zakharopoulou, qui est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Est-ce que ça a donné quelque chose, cette rencontre?
Je dirais que ça a été une bonne rencontre, puisqu'elle croit comme moi que les femmes peuvent jouer un grand rôle dans la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Mais autre chose,
alors,
vous avez dit que je suis en France. Moi, je crois que les Français croient que la guerre en République démocratique du Congo est vraiment loin d'eux. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Puisqu'ils ont des téléphones et 80% des coltans qui aident à la fabrication de ces téléphones proviennent de la République et de la province du Nord Kivu. Donc, les Français ont la guerre de la RDC dans leurs téléphones. Aujourd'hui, on parle de développement écologique, mais les lithium, les cobalt qui fabriquent les batteries électriques, ça vient de la République démocratique du Congo. Et c'est ça la guerre en République démocratique du Congo. Je crois que les Français et les Occidentaux sont tous concernés par la guerre en République démocratique du Congo. Nous, on vous donne la facilité de communiquer, on vous donne le développement écologique et vous donnez-nous la paix. Rien que la paix.
On va finir sur des choses un peu plus légères. Justine. Je vous ai vu manger votre petit gâteau. Hein. Avec ce petit thé aux fruits des bois, là. Ça va aller très bien avec la question.
Est-ce que par amour, vous pourriez aller contre votre tradition?
Par amour? Je ne crois pas.
Ah oui?
Bon, moi, je parlerai de mes convictions. Je ne veux pas parler de la tradition.
Vous ne voulez pas vous fâcher encore avec les chefs coutumiers?
Non, non.
Mais quand même, si on parle de votre relation aux hommes, et je n'invente rien, je l'ai lu dans Femmes debout face à la guerre, vous n'êtes pas du tout dans les conventions, Justine Massikabihamba. Et ce, depuis un certain Alphonse.
Ça, c'est vrai. En résumé, je préfère ne pas en parler. Pourquoi ? On n'avait pas de choses en commun.
Et donc, les choses sont claires pour vous. On n'a pas de choses en commun, donc on se sépare et on devient une femme indépendante.
Oui, je crois qu'au lieu qu'on se blesse chaque jour, lorsqu'on ne se comprend pas, mieux vaut que chacun prenne son chemin et on reste des beaux amis.
Mais donc, votre vie n'est pas véritablement celle d'une Congolaise. Attendez, je cherche un autre mot que traditionnel ou traditionnaliste. On ne veut pas se fâcher, mais on veut dire les choses quand même.
Moi, je crois que ma vie, c'est une vie d'une Congolaise, mais qui croit à ses convictions, surtout.
Est-ce que vous diriez que vous êtes, attention, le mot est lâché, une féministe ?
Bon, pour moi, je suis féministe, mais pas comme une féministe vue de l'Occident.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que pour moi, être féministe, c'est être une femme qui peut faire bouger et changer les choses autour d'elle. C'est pour cela que j'ai dit, je suis féministe dans ma culture, dans mon contexte, pas comme l'Occident.
Comment on dit féministe en swahili ?
Féministe en swahili, c'est pas un mot. Muteteaji wa haki za wanawake.
Qu'on traduirait comment ? Si on traduit la phrase vraiment ?
Une féministe. C'est pour cela qu'on dit.
Vous me roulez dans la farine,
une langue,
Justine.
Non, une langue ne peut pas traduire une autre.
Non, mais parce que ce concept, est-ce qu'il est viable dans un pays comme le Congo ?
Bon, je dirais que souvent, on croit qu'une féministe, c'est une femme qui n'aime pas les hommes. Les féministes veulent vivre dans un monde où il n'y a pas des hommes. Or, ce n'est pas ça. Non, nous devons vivre toujours avec les hommes.
Donc, une féministe qui n'est pas contre les hommes, mais qui aimerait aussi que les hommes soient avec les femmes.
Que les hommes soient impliqués dans la promotion et le respect des droits des femmes. Puisqu'il faut vraiment que les hommes soient nos alliés.
Vous n'avez jamais ressenti de haine par rapport aux hommes, avec tout ce que vous avez vu, entendu, traversé, combattu ?
Ce qui est vrai, à voir ce que font les hommes, certains hommes, on est révolté. Mais en même temps, il y a des hommes qui nous aident. Et là, on se dit, bon, il y a des femmes qui sont mauvaises comme il y a des hommes qui sont... Et là, on ne peut pas être fâché contre les hommes.
Est-ce que vous vous aidez de lecture, de certaines lectures ? Est-ce que vous avez comme ça, près de votre lit, des écrits qui vous aident dans votre combat à tenir aussi philosophiquement, on va dire, idéologiquement peut-être, spirituellement ?
La Bible. Et surtout le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table devant moi, face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper. Il me conduit au bord d'eau paisible.
Vous savez quoi ? Je crois que... Alors c'est Sitwanga Luha Omozira, c'est ça ?
Oui, c'est la chanson de mes parents.
Ah, ça c'est la chanson. Alors attendez, je vais finir sur le psaume 23. Parce qu'effectivement, c'est forcément une question. Est-ce que... mais vous avez donné la réponse, c'est-à-dire malgré les massacres...
Oui. Quand je
30 ans de massacre
le... Quand je marche dans la vallée de l'ombre de
malgré les familles détruites, malgré,
je ne crains aucun mal.
Malgré la destruction des femmes qui est programmée apparemment, vous êtes toujours croyante. Jamais vous ne vous êtes dit « Dieu m'abandonne, Dieu nous a abandonnés ».
Dieu est juste, il ne peut pas nous abandonner.
Comment il peut être juste alors et laisser faire ces massacres? Comment vous résolvez cette question?
C'est difficile pour nous, des fois, de comprendre son plan pour nous. Mais par après, on comprend.
Dieu est avec les femmes alors, il n'est pas seulement avec les hommes.
Il est avec tout le monde.
Si je vous dis Sitwanga Luha Omozira, avant que vous m'en parliez, j'aimerais qu'on écoute la version petite fille et arrière petite fille que vous m'avez envoyée. Alors, il n'y a pas l'image, c'est dommage, mais oui. Il faut imaginer trois poupées, dont une toute petite que... que je vous volerai un jour peut-être.
Merci.
Et ça fait ça.
Sitwangaluha monsira, sitwanga subenuma, akandituha kala, kerimu kwa malino, shatui bizira wakera. Ane mutu watikaya, mukama wetu ni Yesu, alia umanetu.
Quel est le prénom de ces trois petites merveilles?
Il y a Sarah qui est ma petite fille, il y a Lucia qui est mon arrière petite fille, et Owen qui est aussi mon arrière-petite-fille.
Alors, à quoi correspond ce chant?
Les chants, ça veut dire, malgré tout ce que nous sommes en train de traverser, il y a Dieu qui est toujours avec nous pour nous fortifier. Et c'était la chanson de mes parents. Quand on traversait des moments difficiles, on chantait toujours cette chanson.
Alors, Justine, on aura compris que vous aimez Dieu, vous aimez certains hommes. Mais vous aimez aussi les comiques. Et notamment, vous aimez bien un certain Jamel Debbouze.
En tout cas, quand j'étais enfant, la télévision que nous on suivait, c'était la télévision française. Donc, tout ce que je devrais connaître comme comédien, c'était les comédiens français.
Ouais.
Et celui-là, je l'aimais beaucoup.
Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans son humour qui vous fait rire?
Sa façon de parler, sa façon... Quand il était jeune, hein, parce qu'aujourd'hui, il a vieilli quand même.
Faut pas vieillir au pays de Justine. Alors, j'essaye de retrouver le lien que vous m'avez envoyé de l'humoriste congolais Mzé Mboukouli.
Mzé Mboukouli.
Mina penda gazoni nita kwa baby. Mina jiona kabisa niko tu na vivero.
Basi utarudia mberso.
Ukapana nitia na kiwa nyoji iko pa.
Mero tua.
No mina penda kama unapiga kabie. Unapiga kabisa sakura kabie. Ndi. Nzoi. Sina mupatia si niko naangalia juu hawa wanakuwa hapa chanja. Asikia sema sema.
Alors, au fait,
il faut donner un tout petit peu d'image parce qu'il est déguisé, il a des lunettes gigantesques orange sur le nez avec une moumoute, parce que c'est même plus une perruque, grise sur la tête, barbu, etc. On ne sait pas très bien qui c'est alors.
Oui, c'est un jeune garçon, comédien de Goma. Il parle, donc l'actualité du moment, il est fait en comédie.
Ah oui.
Chaque soir, tout le monde le suit pour savoir l'actualité du jour.
Oui. Alors, il est très jeune, mais il parle comme un vieux.
Oui, il parle comme un vieux. Et là, il était dans un restaurant et il essayait un peu de faire la commande de ce qu'il va manger. Donc, les gens, quand ils ont un peu d'argent, ils changent, ils ne peuvent plus manger à la maison, ils doivent aller dans les restaurants. C'est ce qu'il est en train de dire là.
Oui, oui, oui. Est-ce qu'il peut attaquer le pouvoir sans être inquiété? Est-ce qu'il va jusque-là?
Il attaque le pouvoir et il est souvent inquiété. Ça, c'est vrai, puisque quand il y a un, ça ne va pas. On attend toujours chez Mboukouli. Le soir, c'est tout le monde qui regarde la télé. Il est sur une télévision local qu'on appelle Michapi Voice. Mmh. Et souvent, il y a des autorités qui ne sont pas contentes de ce qu'il dit. Et il est attaqué, il est même arrêté.
Vous faites le même métier, aussi dangereux l'un
oui.
que l'autre.
Oui, oui.
Parce que vous aussi, vous prenez des risques.
Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, Goma, nous sommes dans un régime spécial. On parle de l'état de siège, ce sont les militaires qui gouvernent. Et là, bon, c'est vraiment spécial hein, et c'est risquant.
Mais vous irez jusqu'au bout?
Oui, oui, nous devons continuer. Mmh. Parce que si nous tous, nous croisons les bras, il n'y a personne qui va parler et on ne saura pas ce que nous sommes en train de vivre.
On va refermer cet ensemble majeur autour de vous, Justine, avec une voix historique que vous m'avez citée.
Et congolaise, ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore, pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres.
Voilà, on pourrait rediffuser hein, ce discours de Lumumba, tant il est d'une puissance incroyable. Quand vous l'entendez, Justine, dans ce discours d'indépendance du Congo belge le 30 juin 1960, là, dans ce discours en particulier, qu'est-ce que vous vous dites?
Moi, je crois que lorsqu'il parlait, il croyait que les Congolais qui vont venir après vont suivre ses pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, peut-être ils sont trop peu qui écoutent ce discours et qui connaissent, qui comprennent le fond du discours. Puisque là, si les Congolais comprenaient le fond de ce discours-là, je crois qu'on n'aurait pas les conflits que nous avons aujourd'hui.
Donc vous militez pour que sa parole soit mieux connu, transmise, oui. Enseignée. Les jeunes Congolais connaissent oui. mal Lumumba.
Mais aujourd'hui, il y a pas mal de Congolais qui parlent de Lumumba, surtout les mouvements citoyens. Ils ont l'idéologie de Lumumba. Et je crois que le Congo de demain sera un Congo très fort, connaissant l'idéologie de Lumumba.
Qui oubliera qu'un noir, on disait-tu, non certes comme un ami, mais parce qu'elle est vous honorable, était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodant pour les uns, cruel et inhumaine pour les autres.
Donc il faut relire ou réécouter cette pensée qui ne cesse de le répéter depuis ce premier jour d'indépendance. Les Congolais ne doivent compter que sur eux-mêmes, être patriotes et responsables pour avoir un Congo meilleur. Et c'est une femme aux prises avec l'humanité et la souveraineté de son Congo qui vous le dit, Justine Masika Bihamba, repartie à Goma depuis, qui espère le repos dans la paix, qui y travaille sur le terrain et au travers de ses 200 pages parues aux éditions de l'Aube sous le titre « Femmes debout face à la guerre ». Un ensemble majeur à retrouver en podcast sur Pure Radio avec Théo Raison et Yasmine Chouaki. Après la belle congolaise Gassanji, notre playlist RFI, c'est l'heure de votre journal suivi de tous les cinémas du monde.
Yeah, my baby. ciel.